Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est Sonia Backès, présidente de la Province Sud, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation alors que vous êtes rentrée hier soir du Vanuatu, vous avez accompagné le président de la République. Mais d'abord, avant de parler de cette visite du président de la République, et il y en a beaucoup à dire, il y a eu 8 jours exactement un petit remaniement ministériel la semaine dernière. Vous avez été reconduite dans vos fonctions. Vous avez douté un moment où vous étiez confiante et vous pensiez que vous alliez conserver votre portefeuille?
Alors la question n'est pas de douter ou pas. Quand on est nommé dans le gouvernement de la République, on sert la République et ça dure le temps que ça dure. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais la moyenne de durée de vie d'un ministre, c'est 18 mois. On sert le temps qu'on est là, et quand on n'est plus là, bah écoutez, c'est que quelqu'un d'autre doit faire le job, et donc il y a pas, enfin j'étais pas ni inquiète ni j'ai douté
Sont des moments qui doivent être un peu difficiles quand même quand il y a cette incertitude.
Non, parce que enfin en tout cas pour moi ma vie est en Calédonie, donc si je reste je continue à faire le travail que le président de la République me demande. S'il considère qu'il y a quelqu'un d'autre à mettre, je rentre en Calédonie et ça ne me pose pas de difficultés particulières.
Alors le président de la République, il effectue actuellement un déplacement en Océanie. Il est pour l'instant en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Hier, il était au Vanuatu, vous y étiez aussi. Comment ça s'est passé ce voyage dans un pays? C'est la première fois depuis bien longtemps qu'un président de la République française n'allait pas au Vanuatu. Globalement, c'est bien passé?
Oui, très bien passé. C'est vrai que ça faisait 57 ans qu'un président de la République n'était pas allé au Vanuatu. Et puis la dernière fois, c'était le général de Gaulle et c'était les Nouvelles-Hébrides. C'était pas encore. Donc c'était la première fois en fait qu'un président français allait au Vanuatu indépendant. C'était un voyage très fort parce que le président de la République a clairement fait part de sa volonté, un peu plus que sa volonté, puisque c'est marqué par des actions très concrètes, de réengagement de la France dans la zone Indo-Pacifique, et donc au Vanuatu en particulier. C'est très important parce que, vous le savez, la stratégie, l'axe Indo-Pacifique est très important aussi pour la Nouvelle-Calédonie. La France a besoin de la Nouvelle-Calédonie pour cette stratégie Indo-Pacifique, et le fait de voir la France se réengager, notamment au Vanuatu, qui est notre voisin le plus proche, c'est extrêmement important. Donc il y a eu des marqueurs forts, il y a eu une réunion bilatérale avec le Premier ministre du Vanuatu, avec le président vanuatais, dans lesquels il y a eu des actions très concrètes, parce que concrètement c'est quoi le sujet, et d'ailleurs ça a été dit très clairement par le président de la République, c'est qu'il y a une volonté d'impérialisme de la Chine qui essaye de mettre la main sur alors en passant par des actions sur le plan financier économique sur les pays de la zone, et là très clairement l'idée de la France c'est de dire on est là pour protéger ces petits pays insulaires et pour qu'ils gardent leur propre souveraineté, pour dire bah en fait ne vous laissez pas finalement recoloniser par d'autres pays.
Et les Vanuatais peuvent être sensibles à ce genre de discours, il y a dans la population encore un attachement à la France, on le sait bien puisque la France a été longtemps présente au Vanuatu. Est-ce que ils peuvent se sentir protégés aujourd'hui par la France plutôt que par la Chine, ou est-ce que vraiment la Chine a pris trop de place d'ores et déjà?
Alors d'abord, le président de la République a eu un excellent accueil. Énormément de Vanuatais étaient là pour l'accueillir. On a été le soir au Festival des Arts mélanésiens, dans lequel il a été accueilli comme une rockstar. Il y a un très fort attachement à la France. La France a une histoire avec le Vanuatu assez importante. Et je pense qu'il y a un côté très rassurant, parce que la protection de la France... Elle est sans contrepartie. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres puissances, on a parlé de la Chine, mais les États-Unis, on voit bien qu'il y a un intérêt dans leur mainmise sur ces petits États insulaires qui, finalement, leur coûtent pas très cher et qui leur permet d'avoir des places stratégiques importantes. La France, elle ne demande pas de contrepartie. Elle est là pour protéger. Et je crois qu'il y a un accueil, en tout cas, de ce que j'ai ressenti, un accueil très favorable de tout ça par le Vanuatu.
Et donc le président est actuellement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il doit ensuite aller au Sri Lanka, mais ce qui nous intéresse bien sûr directement, c'est les 2 jours qu'il a passés en Nouvelle-Calédonie. Avant de revenir sur le détail de ces déclarations, de ces annonces, pour vous, comment s'est passé ce voyage? Et puisque vous l'avez vu après, vous l'avez accompagné au Vanuatu, est-ce que lui-même a eu le sentiment d'un voyage qui s'était bien déroulé?
Oui, je crois que... D'abord, je veux remercier les Calédoniens parce qu'ils l'ont accueilli, ils l'ont très bien accueilli. Je crois qu'il a ressenti ici... la force de notre appartenance à la République. C'est pas forcément le cas partout en métropole, malheureusement. Et il a vu qu'ici, il y a un respect de l'État, un respect de la, la fonction de chef de l'État. Et voilà, et le fait que les Calédoniens soient venus très nombreux, mais dans, partout, hein, à Touhot, à Magenta, dans les tours de Magenta, la séquence avec le président de la République est extraordinaire, et évidemment sur la place des Cocotiers. C'est la démonstration, et je pense que c'était très important que les Calédoniens le fassent, c'était la démonstration que les Calédoniens sont attachés à la France, quelles que soient leurs opinions politiques, sont attachés à... Et donc, je pense que vu de son prisme à lui et vu ce qui se passe en métropole, c'était un excellent moment et je pense que les Calédoniens ont vraiment fait le job, comme j'ai l'habitude de dire, pour que ça se passe bien.
Alors lui-même, il a réaffirmé très clairement l'appartenance à la France avec cette phrase « La Nouvelle-Calédonie reste dans la France parce que les Calédoniens ont choisi de rester français ». Bon, on a envie de dire, il l'avait déjà dit, quoi. C'était utile qu'il le redise ici ?
Oui. Oui, c'était utile. Vous savez, on vit quand même une période de doute permanent. On a fini l'accord de Nouméa. On est un peu dans une période où on ne sait pas très bien où on va. Et c'était important que le président de la République fixe un cap. Un cap, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, d'une part, dire où on en est. Et le où on en est, c'est clairement, on est dans la République française. Des fois que certains en doutent en disant, parce qu'on en... Je crois que malheureusement, comme on est en Calédonie... très attaché à la politique parce qu'on est dans un processus important et que donc toutes nos décisions sont liées à ce qui se passe au niveau politique. Quand on entend des indépendantistes en permanence dire on remet en cause le troisième référendum, ça va pas se passer comme ça, on va aller à la violence si il se passe ça ou ça, il y a un doute chez les Calédoniens. Et je pense qu'ils avaient besoin d'être rassurés et être rassurés par le chef de l'État, c'est le comble. De l'assurance, bien évidemment. Donc il y avait besoin de cette réassurance, il y avait besoin de réaffirmer que le processus a eu lieu, qu'il a été conforme aux règles nationales et internationales, qu'aujourd'hui on a décidé de rester français et que maintenant on fixe un cap et on sort de cette logique de indépendance par indépendance parce qu'on a choisi de rester français. Maintenant, qu'est-ce qu'on construit pour la Nouvelle-Calédonie ? Donc oui, il a dit des choses qu'il avait déjà dites, puisqu'il l'a dit en 2018 que la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie, les choses étaient assez claires. Là, il a sans doute été, parce qu'il c'est un démocrate. La démocratie s'est exprimée, les Calédoniens se sont exprimés. On est français parce qu'on l'a décidé. Et il l'a redit, c'est notre décision. Et donc, il la respecte et en tant que président de la République, il doit la mettre en œuvre.
Alors là, la fausse note de ce voyage, c'est l'attitude des élus de l'Union calédonienne, notamment qui ont boudé la réunion politique qui avait lieu mercredi matin. Le président s'est dit blessé par leur absence. Il a adopté un ton un peu virulent à leur égard. Est-ce qu'il a eu raison d'adopter ce ton ? De leur reprocher aussi.
Vous savez, j'ai l'occasion de discuter avec des responsables politiques indépendantistes. On est une terre d'accueil, on a une devise qui est terre de parole, terre de partage. Je crois que personne n'a bien compris l'absence. Et encore une fois, vous parlez des membres de l'Union calédonienne. Certains étaient là, hein. Jacques Lallier était présent, Jean-Louis d'Angleberme était présent. Il y avait des élus de l'Union calédonienne, il y avait Michael Forest qui était présent aussi au discours l'après-midi. Bon. Donc il y avait des élus de l'Union calédonienne, il en manquait évidemment quelques-uns. Honnêtement, le président de la République, c'est le président de la République. Quand il vous invite à une réunion, qu'on soit indépendantiste ou pas indépendantiste, on doit y aller. Voilà, après, moi, j'espère que c'est une parenthèse de l'histoire. Je crois qu'encore une fois, le président de la République nous a invités à rentrer dans ce pacte de Nouméa, dans lequel il y a des choses qui sont crispantes pour les uns et pour les autres. Et c'est normal, le président de la République doit faire un équilibre. Maintenant, il faut que, en responsabilité, j'ai été assez surprise pendant ce déplacement de voir les Calédoniens et d'entendre les Calédoniens sur le terrain dire « on a envie de passer à autre chose ». On a envie de passer à autre chose. Et on doit entendre ça, qu'on soit indépendantiste ou pas indépendantiste, on doit entendre ça. Et les responsables politiques indépendantistes qui, je le comprends, ont signé les accords de Matignon, ont signé l'accord de Nouméa, ça fait 35 ans que l'indépendance est leur fonds de commerce, comment on passe à autre chose ? Moi, je les invite à passer à autre chose avec ce pacte qui nous est proposé par le président de la République.
On y reviendra, mais avant, pour revenir un peu sur le discours qui a été très dense, hein, plus d'une heure de discours, Emmanuel Macron propose un double chemin à la Nouvelle-Calédonie. Et le premier, passer à autre chose. Le premier, c'est le chemin du pardon. Alors, on sait le sens. Certains avaient peur d'un geste mémoriel trop fort ou de repentance. Il dit bien que ce n'est pas de la repentance, mais c'est quoi ce geste de pardon ? Est-ce qu'il est indispensable, comme il le dit ? Comment est-ce que vous le voyez ? Et comment, selon vous, le chef de l'État l'interprète ? Il dit que, bon, là, ce n'était pas forcément Le premier qu'il avait voulu faire n'avait pas bien été fait avec la restitution de l'acte de prise de possession. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Vous en avez une idée?
Alors, je considère qu'on parle trop du passé et que maintenant il faut qu'on construise l'avenir. Mais il faut être objectif sur une chose. Moi, j'ai été encore une fois très très frappée pendant les trois référendums quand on a fait campagne par les réponses que nous donnaient les Calédoniens. C'était, en gros, on avait des indépendantistes qui nous disaient « Je voterai oui à l'indépendance pour mes ancêtres, parce qu'on le doit à nos anciens, parce que nos anciens ont combattu, et que donc on le doit à nos anciens. » Et puis des gens qui votaient non à l'indépendance, qui nous disaient « On le doit à nos enfants. » Et cette fracture temporelle, en fait, on ne l'a pas réglée. Et donc, moi, je suis... évidemment, vous savez bien qu'on n'est pas demandeur, nous, de cette histoire de pardon. J'étais évidemment pas demandeuse en 2018 de la restitution de l'acte de prise de possession. Je considérais que ce geste n'avait pas de sens avant les référendums. Enfin bon, donc, je suis pas demandeuse de ça. Mais je considère que, visiblement, on a un souci avec le passé pour certains. Et il a été très clair dans son discours. Alors, bon, je considère que ça ne doit pas être de la repentance. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont été mal faites, des erreurs qui ont été faites de part et d'autre. Et le pardon, il doit arriver partout. On a, je le rappelle, on a quand même, pendant les événements, notamment, des loyalistes, des canaques loyalistes en particulier sur la côte Est, qui se sont fait mettre dehors, qui se sont fait brûler leur maison. Ça aussi, ça demande le pardon. Et je pense que ce pardon, il doit arriver de tous les côtés. C'est un geste qui nous permet... Peut-être qui nous permettra, alors moi je veux y croire, parce que je veux croire globalement qu'on est en capacité de passer à autre chose, encore une fois, aussi dur soit ce soit de passer à autre chose pour chacun de nous, parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à accepter, qu'on a du mal à digérer. Il a parlé d'un passé qui a du mal à passer, c'est exactement ça. Et donc, je veux croire qu'on est capable de construire autre chose. Les Calédoniens nous attendent là-dessus, on peut pas. C'est évidemment notre fonds de commerce. Ça fait pour certains 20 ans, 30 ans qu'on fait de la politique, certains en disant il faut l'indépendance, d'autres disant on veut plus de l'indépendance. Ouais, ok, mais maintenant faut passer à autre chose. Et donc il nous permet quelque part de passer à autre chose. Donc je crois qu'il faut y aller, le pardon, voilà. Et puis après, sur l'avenir, il a fixé un cap quand même. Il a fixé un cap. Tout n'est pas réglé, évidemment. Il n'a pas réglé tous les problèmes, mais il a parlé d'économie, il a parlé de politique. Quand même, ce qui est très, très important, c'est le dégel du corps électoral. De dire « on ira de toute façon ». Ça, c'est quand même une attente forte.
Mais alors, il l'a dit clairement, dégel du corps électoral, mais il dit même que c'est d'abord... Enfin, c'est la première étape.
Oui, je crois qu'il a dit surtout, sur ce point-là, en résumé, qu'il y ait consensus ou pas, il y aura dégel du corps électoral. Oui, après, reste demande un consensus.
Comment, selon quelle modalité sur le corps électoral, on ne sait pas encore.
Je ne crois pas que ce soit au président de la République de régler ça.
Mais il n'y a pas encore de pression. Ce sera réglé au mois d'août.
Fin août, voilà. Je pense que c'est au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer qui, quand même, est avec nous régulièrement sur le sujet, qui nous voit, en gros, tous les un mois et demi, deux mois pour avancer. On a quand même, sur un certain nombre de sujets, bien avancé. Je pense que c'est au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer à qui il a rappelé toute sa confiance sur le sujet calédonien, de fixer ces conditions-là. Ce qui est important pour nous, entre nous, c'est pas forcément les détails de ça, c'est que quelqu'un qui arrive en Nouvelle-Calédonie sache qu'au bout d'un certain temps, il pourra voter, que les Calédoniens qui sont là, pour certains depuis 20 ans, sachent qu'aux prochaines élections provinciales, ils vont pouvoir voter. Enfin, voilà, c'est ça qui est important.
Et alors, il s'empare aussi dans la foulée de la question de la citoyenneté. Et ça, c'est un peu plus novateur, peut-être. C'est-à-dire qu'une citoyenneté purement calédonienne, au sein de la citoyenneté française, qui ne soit plus liée au droit de vote. Ça peut avoir un écho dans la population calédonienne. Ça peut permettre de construire l'avenir, justement.
C'est à nous de le construire, mais c'est vrai que le fait d'avoir lié la citoyenneté au droit de vote pour les provinciales, en particulier dans l'accord de Nouméa, ça a finalement crispé énormément les positions. C'est-à-dire que le fait d'avoir tout ce qui concerne la citoyenneté, l'accès à l'emploi, l'accès à un certain nombre de dispositifs en Nouvelle-Calédonie, de l'avoir lié à la citoyenneté, donc au droit de vote, ça a crispé le sujet du droit de vote, clairement. Le fait de le délier, le fait de dire le droit de vote, le corps électoral sera dégelé, quoi qu'il arrive, parce que c'est la loi, c'est la règle, on était dans un truc transitoire avec l'accord de Nouméa, c'est fini, on passe à autre chose, check. Et après, la citoyenneté, comment on la construit? Comment on est un Calédonien? Et ça, je pense que c'est quand même un élément. Alors, nous, on n'était pas forcément demandeurs de ça. Les indépendantistes, eux, parlent de lier ça au droit de vote. d'un éventuel nouveau référendum. Nous, on n'est pas du tout là-dedans, parce que vous le savez, sur le droit à l'autodétermination, autant on reconnaît son existence, autant on dit que ça suffit. Et d'ailleurs, le président a été clair là-dessus. On ne va pas aller voter tous
on
les quatre matins.
On ne vote pas tous les ans.
Il a dit, oui. Ça va bien. Hein, je veux dire, les Calédoniens ont quand même... Et puis, ça crispe tout le monde. Ça oblige les gens à se positionner dans un camp. Et encore une fois, ce qu'on a vu pendant ces jours, c'est que je crois que les Calédoniens en ont ras-le-bol. Et donc, il faut arrêter avec ces référendums. Ça suffit, ça ne règle rien. Et on voit bien que ça n'a rien réglé. Au contraire, ça a crispé et figé les positions. Et vous le savez, moi, j'ai poussé à ce qu'on y aille pour qu'on ait une décision de rester dans la France. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça n'a pas réglé le fond des problèmes.
Alors, il l'avait déjà dit, ça avait déjà été dit, mais que ce soit annoncé par lui, ça a forcément plus de poids. Il souhaite une révision de la Constitution début 2024. Pour le corps électoral ou pour le nouveau statut, ça, on ne sait pas encore trop. D'ailleurs, lui-même laisse un peu de flou autour de la question, mais en tout cas, il veut une réforme de la Constitution. Le calendrier va être un peu serré, non ?
Le calendrier est serré, mais en fait, je crois que là, c'est la balle. Il renvoie la balle dans le camp des partenaires calédoniens et en particulier des indépendantistes. C'est-à-dire qu'en gros, moi, ce que je comprends, mais chacun verra sans doute midi à sa porte, mais ce que je comprends, puis c'était finalement assez clair, c'est qu'il y aura une réforme constitutionnelle. Soit, s'il n'y a pas de consensus, elle ne portera que sur le corps électoral, parce qu'on ne peut pas faire autrement avant les élections provinciales, soit on est capable d'aller plus largement et sur la base d'un consensus de tracer un nouveau projet, il a parlé de tresser lui, mais de tracer un nouveau projet pour la Nouvelle-Calédonie. Vous savez, moi j'ai toujours été favorable à ce que on ne traite pas que le sujet du corps électoral, parce qu'en réalité, on a des institutions qui ne marchent plus, on voit bien qu'on est arrivé au bout de ce qui était mis en place dans l'accord de Nouméa, qui avait un intérêt quand ça a été mis en place, où on avait deux blocs, RPCR, FLNKS, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La société a évolué, donc on a besoin d'avoir des nouveaux outils qui marchent. Le Conseil d'État a pris des décisions sur la répartition des compétences qui font qu'aujourd'hui, c'est un millefeuille insupportable, cher, insupportable sur le plan du quotidien des Calédoniens, insupportable sur le plan financier. Donc moi, je suis très favorable à ce qu'on travaille sur un accord global. C'est pas nous qui refusons de discuter, c'est-à-dire que nous, on est d'accord pour travailler sur tous les sujets. Si on a des partenaires autour de la table, on est prêt à parler de tous les sujets. Je crois que le fait de dire, de toute façon, il y aura soit une réforme constitutionnelle à minima, si vous vous mettez pas d'accord, ce sera le corps électoral, et puis il y aura une réforme globale si vous êtes capable de vous mettre d'accord, c'est plutôt sain.
Alors Emmanuel Macron parle aussi à tout un chapitre de son discours qui est consacré au modèle économique et social, qu'il lie d'ailleurs au chemin de l'avenir, à la construction de l'avenir. Un modèle économique et social pour plus de justice, dit-il aussi. Comment l'interprétez-vous ? Est-ce que c'est à nouveau un appel à faire évoluer la fiscalité calédonienne ? Est-ce que c'est remettre en cause le modèle qui existe aujourd'hui, avec lequel il a été un peu sévère ? Comment est-ce que vous voyez les choses ?
Alors d'abord, je pense qu'il ne faut pas lier la question des inégalités à la fiscalité. C'est malheureusement le raccourci qui est fait très rapidement, parce qu'à chaque fois qu'on a augmenté les impôts, on n'a pas réduit les inégalités en réalité. Hein. Si on regarde ce qu'ont fait les indépendantistes depuis 2 ans qu'ils président le gouvernement, la seule chose qui a été faite, c'est augmenter la CCS. Bon, je ne crois pas que ça ait réduit en quoi que ce soit les inégalités, vous voyez. Donc, par contre, c'est des actions très concrètes. Ce qu'on a fait autour de Magenta, puisqu'on y était avec la province, c'est des actions très concrètes de réduction des inégalités. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a eu dans l'audit de la décolonisation et le bilan de l'accord de Nouméa des éléments très concrets sur ces inégalités qui existent. Je crois que personne ne peut les nier. Qui existent et puis qui, en plus, malheureusement, sont aussi liés à l'appartenance ethnique. C'est une réalité, c'est comme ça. Mais on a des nouvelles injustices avec des gens qui, aujourd'hui, sont à la limite de l'accès aux aides, donc gagnent trop pour avoir accès aux aides, et gagnent pas assez pour accompagner correctement leurs enfants. Ceux-là, il faut pas les oublier, parce que souvent, trop souvent, ils sont oubliés. Et je veux dire quelque chose qui est important, c'est, alors, tout le monde ne connaît pas l'indice de Gini, qui est l'indice qui, en fait, mesure les inégalités. L'indice de Gini, qui est un indice qui, finalement, en résumé, regarde si la concentration de la richesse est faite sur un tout petit nombre, ou si, au contraire, la répartition de la richesse est faite sur un grand nombre. Donc, ça mesure le taux d'inégalité. Ben, en fait, cet indice de Gini, là où il est le meilleur, c'est-à-dire là où il y a le moins d'inégalités, c'est en province sud, bizarrement. Là où il est le pire, c'est en province des îles et en province nord. Donc, en réalité, c'est pas forcément la situation. Et c'est quand même dommage, après 25 ans d'accord de Nouméa, donc de rééquilibrage, d'en arriver à ce que, avec, excusez-moi, mais il y a eu quand même 4 fois plus d'argent par habitant donnée en province nord, encore plus en province des îles. La province sud est exsangue parce que elle est obligée de réduire la voilure, de moins aider ses populations parce qu'elle a plus d'argent, parce que elle a 76% de la population qui habite sur son territoire et que 50% des recettes fiscales. Et ben malgré ça, nous en province sud, on a réussi à réduire les inégalités, alors qu'en province nord et en province des îles, c'est pas le cas. Et ben ça pose question. Donc moi, ce que je veux dire, c'est la réponse à ça, et je comprends bien que ça pose question aux électeurs non indépendantistes, ce sujet-là. Mais ce sujet-là, la réponse, c'est pas juste d'augmenter les impôts. Et c'est certainement pas, en tout cas, d'augmenter les impôts. C'est de se poser la question de comment la richesse est répartie et partout en Nouvelle-Calédonie.
Et c'est des éléments qu'il faudra prendre en compte dans le futur statut,
bien sûr,
forcément.
De manière essentielle, parce que la cohésion sociale, le fait de... Encore une fois, ça fait 35 ans qu'on fait de la politique sur la base de indépendance, pas indépendance. Et c'est évidemment le sujet majeur. Et maintenant qu'on sait qu'on va rester dans la République, quelle société, quel modèle on construit pour réussir à faire ensemble?
Ah, pour le modèle économique, il y a deux piliers clairement identifiés par le président de la République, le nickel et l'agriculture. Alors le nickel, bien sûr, on attendait tous un peu des annonces. Il y a beaucoup de constats, les usines ne sont pas rentables, le système n'est pas bon. Quand même un peu révolutionnaire, il faut bouger les équilibres de production et il faut bouger la doctrine nickel. Une fois qu'il l'a dit, on fait comment? On convainc les indépendantistes, la province nord, de revenir sur son schéma? C'est pas facile pour trouver une solution.
Alors là, j'ai pas la baguette magique. Ce que je crois, c'est que on peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que les trois usines perdent de l'argent. L'État va pas faire des chèques en blanc à chaque fois que c'est en déficit. Ça marche pas comme ça. Donc, le président de la République a fait quand même une annonce très forte sur la question de l'alimentation énergétique, en disant qu'il y aurait des investissements de l'État qui seraient faits là-dessus. Mais après, ça doit poser question. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec un certain nombre de mes partenaires indépendantistes dans le cadre des réunions qu'on fait sur le sujet. Je pense pas que le sujet soit complètement fermé. Il faut pas le prendre trop brutalement parce que il faut qu'on trouve des solutions qui conviennent à tout le monde. Mais je pense qu'il faut qu'on pose de manière pragmatique la manière dont nos usines peuvent fonctionner. Est-ce que il faut un peu d'export? Oui, non. Est-ce qu'il faut de la transformation locale? Évidemment. Est-ce que les trois usines doivent continuer à fonctionner de manière fermée, comme c'est le cas aujourd'hui?
Ou coordonner l'ensemble.
Il y a plein de questions globale. qui se posent d'ailleurs principalement aux acteurs calédoniens plus qu'à l'État. Moi, j'ai proposé au président du gouvernement à la dernière réunion nickel, je lui ai proposé qu'on se voit, nous, pour voir ce qu'on peut trouver comme solution ensemble. Parce que, mine de rien, l'État, ça le concerne que pour faire des chèques, quoi, hein, excusez-moi. Mais, donc là, c'est quand même... On peut pas vouloir être plus autonome, vouloir plus de responsabilités, et puis tendre la main à l'État à chaque fois qu'il y a un problème.
Pas d'annonce précise non plus sur le système énergétique, si ce n'est, on a cru comprendre que l'État, là, il était prêt à payer, finalement, qu'il n'y a que lui qui pouvait payer.
Ah oui, là-dessus, on ne se bat pas. Hein.
Une énergie décarbonée, mais on ne sait pas encore de quel type ça pourrait être.
Non, je pense que ça mérite des expertises techniques.
Il y a des réunions prévues en septembre, ouais, semble-t-il, sur le sujet. Hein. Dans le domaine de l'agriculture, un certain nombre d'annonces, là aussi, ça va plutôt dans le bon sens pour vous,
Oui, je pense que ça va dans le bon sens parce qu'il on a un taux d'autonomie alimentaire qui est malheureusement trop bas. On a des moyens et une terre assez exceptionnelle pour faire des choses. Et malheureusement, c'est vrai qu'il faut qu'on change d'étape. C'est-à-dire qu'on a une phase de redistribution du foncier qui a eu lieu de manière très importante. Aujourd'hui, on a une redistribution qui a été faite par la DRAF et qui a satisfait beaucoup. Aujourd'hui, il faut qu'on passe à quelque chose, encore une fois, de plus pragmatique. Comment on fait pour valoriser la terre? Comment on fait pour que la terre calédonienne contribue concrètement à notre autonomie alimentaire? Voilà. Et qu'est-ce qu'on n'est pas capable de produire localement et qu'on doit importer? Je crois que là aussi, il faut être pragmatique. Et qu'est-ce que, par contre, on est capable de produire localement, mais il nous faut des solutions sur la terre? Et il a ouvert une porte quand même assez importante sur la question de l'évolution de la DRAF pour en faire un outil d'aménagement foncier. Là aussi, pour dire comment on fait pour donner... On a quand même des jeunes agriculteurs qui n'ont pas accès à la terre, qui font parfois sur des petits bouts de terrain ce qu'ils peuvent. On a quand même tout intérêt à leur permettre d'avoir une vraie démarche d'aménagement pour avoir du foncier.
Alors, on en parlait au début de cet entretien, la stratégie Indo-Pacifique et la volonté de réengager la France dans la région qui passe très clairement par la Nouvelle-Calédonie, notamment par le biais de la défense. Là, il y a eu quelques annonces. Les forces armées vont être renforcées avec des moyens supplémentaires en Nouvelle-Calédonie même.
Oui. Oui, c'est cette partie-là, je ne sais pas si ça nous paraît sans doute un peu lointain ou un peu abstrait. C'est très important pour la Nouvelle-Calédonie. Il faut que les Calédoniens comprennent bien qu'il y a quelques années, et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 10 ans, la Calédonie était un problème pour la France, en permanence. Ils n'avaient qu'une trouille, c'est qu'on se batte entre nous. Ils avaient peur d'être attaqués sur le processus de décolonisation, etc. On était finalement à chaque fois un problème où personne n'osait trop parce que ce truc-là était qu'un problème. Aujourd'hui, on est une part de solution pour la France. Grâce à cette question géostratégique essentielle des nouveaux impérialismes, pour ne pas citer de noms de pays, mais des nouveaux impérialismes qui clairement s'organisent pour avoir une force militaire, géostratégique, économique qui nous mettront dans les années à venir en difficulté. Et en ça, la Calédonie est une solution. Et donc, le fait... Alors, la stratégie indo-pacifique, ça se traduit concrètement. Je l'ai parlé du Vanuatu au début de cet entretien. En Nouvelle-Calédonie, c'est 200 militaires en plus, c'est des moyens supplémentaires matériels très importants. Voilà, c'est concrètement une base de l'armée française en Nouvelle-Calédonie.
Et alors, il a terminé, Emmanuel Macron a terminé son discours en proposant de sceller le pacte de Nouméa. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas un accord, c'est pas l'accord de Nouméa, c'est pas un nouvel accord. C'est quoi ce pacte ? Ça engage la Calédonie et la France ? Ça engage la Calédonie et le président de la République qui a l'air de vouloir s'y engager lui-même ? Comment vous avez interprété cet appel à la fin de ce discours ?
Oui, ça nous engage tous. Je l'ai dit, il y a dans son discours des irritants pour tout le monde. Mais ce pacte, il permet à tout le monde d'avoir des portes de sortie sur nos combats permanents, en fait. Le pacte, c'est quoi ? Le pacte, c'est de dire, OK, il y a un passé qui a du mal à passer. OK, il y a un avenir qui, pour l'instant, est très flou. Engageons-nous ensemble dans ce pacte qui nous permet de fermer les blessures du passé et d'ouvrir un cap clair sur l'avenir. Moi, je crois qu'on a tous intérêt, même si encore une fois il y a des choses qui nous plaisent pas et on aura l'occasion d'en débattre dès l'instant où on se retrouve autour de la table, on a tous intérêt à y adhérer. Parce qu'en fait, c'est une vraie porte de sortie pour que la Calédonie aille mieux, quoi. Donc j'invite tous les partenaires calédoniens à ce qu'on se parle, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'avenir dans le fait de pas venir autour de la table. Il n'y a pas d'avenir, ça n'existe pas. Je veux dire, oui, encore une fois, on n'est pas d'accord sur tout, on ne sera pas d'accord sur tout, mais pas venir autour de la table, ça mène à rien.
Les prochains rendez-vous maintenant, les prochaines étapes après cette visite présidentielle qui était attendue, c'est le mois d'août, fin août à Paris, discussion tripartite a priori, et ensuite, d'ici la fin de l'année, d'ici la réforme de la Constitution qu'ils le souhaitent pour début de l'année 2024, il y a d'autres réunions prévues ici à Paris pour discuter, alimenter ce futur statut.
Alors évidemment, il va falloir qu'on se voit quelques fois si on veut réussir à trouver un projet global. Sinon, il y aura une réforme constitutionnelle sur le corps électoral. La prochaine échéance, je crois que c'est la première, je ne sais pas si c'est fin août ou la première semaine de septembre, dans laquelle je crois qu'on va voir si on s'engage ou pas dans quelque chose de commun ou si on n'est que sur le sujet du corps électoral. Et je trouverais ça, franchement, je trouverais ça dommage pour tout le monde. Nous, on est très... Moi, évidemment qu'il faut le dégel du corps électoral, mais c'est le minimum. On voit bien qu'il n'y a pas que ça qui ne va pas en Nouvelle-Calédonie. Il y a plein d'autres choses. Donc si on arrivait à tout traiter... et à faire une modification constitutionnelle qui concerne tous les sujets, ce serait une belle réussite et une belle preuve d'intelligence de la part de tous les partenaires. Encore une fois, parce que je crois que quand on est élu, on doit répondre aussi aux attentes de nos électeurs, avant tout aux attentes de nos électeurs, et nos électeurs, ils attendent qu'on leur offre des perspectives.
C'est avec laquelle je le disais, on le disait en commençant cette interview, vous avez donc été reconduite dans vos fonctions de secrétaire d'État, donc on imagine que vous allez repartir à Paris assez rapidement. Vous allez prendre votre casquette de présidente de la province sud pendant plusieurs semaines, là.
Oui, là je reste. Il se trouve qu'en métropole, le mois d'août est un mois un peu ralenti. Il y a plus de. Le Parlement est en vacances. Il n'y a pas de Conseil des ministres jusqu'à la fin du mois d'août, donc je reste en Calédonie une bonne partie du mois d'août. Donc j'occuperai mes fonctions locales.
Eh bien, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence.